Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Vous êtes branchés sur la VOA, Jacques Aristide avec vous, heureux de vous retrouver dans 5 petites minutes, votre magazine du vendredi soir, l'Amérique et vous. Et il sera question des réseaux sociaux et leur impact en Afrique. Jean-Roger Billon vous dira tout à l'heure, mais d'emblée, un condensé de l'actualité en ce 28 mars 2014. Grave incident à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Des personnes qui participaient à une cérémonie funèbre ont été prises à partie la nuit dernière. Les assaillants, non identifiés, ont ouvert le feu et jeté des grenades dans le quartier Fatima, dans le sud de Bangui. Au moins 20 personnes ont été tuées, d'après le ministre de la Sécurité publique, Denis Wangao Gizimale. Les autorités ont dénombré 11 blessés, tous admis à l'hôpital communautaire, là où nous retrouvons Bagassi.
Ce matin, la situation restait très tendue à Fatima, dans le sud de Bangui. De temps en temps, on entend des coups de feu, des badauds qui se mettent à courir. Des éléments anti-balaka très remontés sont également visibles. Ils seraient arrivés sur les lieux après l'intervention, dit-on, musclée de la MISCA burundaise. C'est que hier nuit, des dizaines de gens participaient à une cérémonie funèbre à Fatima lorsqu'elles ont été attaquées. Tamba Vianney, un résident de Fatima, raconte.
Vers 24h01, la place quoi na pokoti lycée de
entre minuit et 1h du matin sur les lieux des funérailles derrière le lycée de Fatima, brusquement il y a eu des rafales suivies d'explosions de grenades. Sur place, il y a eu 6 morts. Les jeunes du quartier mécontents ont brûlé des pneus sur la voie.
L'avenue de la CEMAC qui relie le quartier kilomètre 5 à Pétévo est barricadée à plusieurs endroits par les riverains, la principale barrière se trouvant devant l'église de Fatima. Bangui Bagassikoura pour la Voix de l'Amérique.
Le virus Ebola continue de se propager en Guinée. 4 cas ont été signalés à Conakry. Des personnes soupçonnées d'avoir été en contact avec le corps d'une victime. Jusqu'alors, l'Ebola n'avait pas frappé la capitale. Au total, la Guinée a répertorié 103 cas suspects de fièvre hémorragique, dont 66 décès. Le virus Ebola est très contagieux. Il provoque de fortes fièvres, des vomissements, des diarrhées et des saignements. La 4e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, s'est ouverte ce matin à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Le successeur de l'actuel président de l'organisation, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, devra être désigné à l'issue de ce sommet qui se termine demain. Au menu des discussions, l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Retour sur le naufrage de samedi dernier sur le lac Albert en République démocratique du Congo. Le Haut Commissariat aux réfugiés est en train de prendre des mesures pour aider les victimes et leurs proches. Ils reçoivent de l'aide dans leur camp en Ouganda et un soutien psychologique leur est proposé. Le bateau a chaviré après avoir quitté l'Ouganda avec à son bord des personnes qui tentaient de rentrer chez elles dans le Nord Kivu. La tragédie a fait 251 morts.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La Russie doit retirer ses troupes de la frontière ukrainienne et commencer à négocier. C'est ce qu'a déclaré Barack Obama. Les manœuvres militaires de la Russie pourraient avoir pour simple objectif d'intimider l'Ukraine, reconnaît le président américain. De leur côté, les autorités ukrainiennes accusent la Russie de préparer une attaque. Kiev affirme que la Russie a massé près de 100 000 soldats le long de ses frontières. Mais les experts occidentaux estiment que ces troupes russes ne seraient que 30 000. Hier, l'ONU a adopté une résolution non contraignante pour dénoncer le rattachement de la Crimée à la Russie, une initiative que Moscou juge contre-productive, qui pourrait compliquer les efforts pour résoudre la crise. Sachez également que le président Obama est en Arabie Saoudite pour des entretiens avec le roi Abdallah sur fond de divergences sur les dossiers syriens et iraniens. Et puis les recherches se poursuivent pour tenter de trouver l'avion disparu de Malaysia Airlines. Des avions australiens ont repéré des objets dans l'océan Indien, environ 1850 km des côtes australiennes. Au cours des derniers jours, des images satellites y avaient déjà révélé la présence d'objets flottants, mais les navires ne seront pas en mesure d'atteindre la zone avant demain samedi.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Merci de nous rejoindre dans l'Amérique et vous focus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, autopsie d'une société moderne sous l'emprise des technologies de l'information. Notre invité sera François Bernard Hugues de l'IRIS à Paris. Ici Washington, l'Amérique et vous, bienvenue à tous.
L'Amérique et vous, Jean-Roger Billon.
Et pour commencer, le président américain Barack Obama a appelé à la fin des collectes systématiques des données téléphoniques aux États-Unis par l'Agence nationale de sécurité, la NSA. Le gouvernement devra dorénavant avoir la permission de la justice pour obtenir des données des compagnies téléphoniques. Lionel Gaïma.
Ces compagnies, sous la nouvelle procédure, ne seront pas obligées d'archiver tous les appels téléphoniques. Mais elles devront fournir à la NSA des mises à jour des relevés de tout numéro spécifique identifié comme suspect par les analystes de la NSA. Lors d'une conférence de presse aux Pays-Bas, M. Obama a dit que cette nouvelle politique devrait assurer l'équilibre entre les libertés individuelles et les impératifs de sécurité.
Je suis convaincu que cela nous permettra de faire ce qui est nécessaire face aux dangers d'attaques terroristes, mais d'une manière qui réponde aux préoccupations que les gens avaient mises en relief.
M. Obama a ordonné une revue de programme de surveillance téléphonique après les fuites orchestrées par l'ancien consultant de la NSA, Edward Snowden, l'année dernière. Les documents de la NSA ont montré que les États-Unis avaient mis sous écoute les communications des alliés étrangers, dont le téléphone cellulaire de la chancelière allemande Angela Merkel. Pour M. Obama, l'Amérique doit redorer son blason terni à travers le monde.
But I recognize that because of these revelations,
je reconnais qu'en raison de ces révélations, il est nécessaire que nous regagnions non seulement la confiance des gouvernements, mais aussi et surtout celle des citoyens ordinaires. Et cela ne va pas se faire du jour au lendemain parce que je pense qu'il y a une tendance à se méfier du gouvernement et à douter en particulier des services de renseignement des États-Unis.
Une législation similaire à celle du président Obama est sur la table des députés de la Chambre des représentants. Le projet de loi interdit également à la NSA la collection en vrac de données téléphoniques, mais ne nécessite pas du gouvernement la saisie d'un tribunal pour obtenir les données de compagnies de téléphone.
Pour approfondir leur connaissance des réseaux sociaux, le département d'État a invité aux États-Unis des jeunes, leaders dans leurs professions respectives, parmi eux un Ivoirien, Dr Edmond Doua, enseignant à l'université au Faubourg d'Abidjan et conseiller du ministre du Plan et du Développement, il nous a confié le contenu et les perspectives de cette visite.
Alors, nous sommes là dans le cadre d'un programme qu'on appelle International Visitor Program Leadership, donc qui permet aux jeunes leaders des différents pays de s'imprégner des réalités donc des États-Unis. En l'occurrence, il s'agit des médias, donc on va appeler les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que les nouveaux médias, donc Internet et ses dérivés, contribue à améliorer le dialogue entre le gouvernement et les citoyens. Comment est-ce que par le biais d'Internet, par exemple, ou donc par Facebook et consorts, on arrive à instaurer ce dialogue interactif où les citoyens participent au développement par leur contribution, par leur suggestion. Il ne s'agit plus de regarder l'autre pour dire « bon, voilà, voici ce que nous avons pour vous ». Mais il faudrait que l'autre, en retour, dise « c'est vrai ce que vous avez pour nous, c'est bien, mais on aurait voulu que ce soit ici ». Et ce dialogue se fait autour des réseaux sociaux.
Alors, la Côte d'Ivoire a-t-elle les moyens de se lancer à l'assaut des réseaux sociaux? Vous savez que l'ordinateur n'est pas à la portée de l'Ivoirien moyen.
C'est cela. Alors, le ministère de la Poste, donc des technologies de l'information et de la communication, travaille donc sur ce sujet-là. Permettre à ce que la population ait accès de façon facile donc au réseau, donc aux technologies de l'information et de la communication par le biais de la défiscalisation, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot là, donc permettre à ce que les équipements soient accessibles et que les Ivoiriens finalement puissent chacun à son niveau avoir un ordinateur portable, mais déjà au niveau de la téléphonie mobile c'est chose faite. Convenez avec moi que dans tous les foyers, au moins chacun possède un téléphone portable, d'autres en ont 2, 3, 4, 5. Et aujourd'hui, avec le 3G lancé par les opérateurs économiques, les opérateurs de la téléphonie mobile, comme Orange Côte d'Ivoire et bien d'autres, permettent à ce que ces technologies-là soient utilisées par les Ivoiriens de façon facile. Donc vous avez sur votre mobile, Internet, vous pouvez avoir la connexion à moins de frais. Donc ça permet finalement cet échange, ce dialogue social.
Alors vous sortez d'une formation ici aux États-Unis. Que rêvez-vous de la Côte d'Ivoire dans ce domaine ?
Que la Côte d'Ivoire soit, elle est déjà pionnière parce que les chiffres le démontrent. Nous sommes en avance sur bien d'autres pays en matière de technologie, de l'information et de la communication. La télévision, d'ici quelques mois, passera au numérique. Donc c'est une réalité. Maintenant que nous venons après cette visite, parce que ce n'est pas véritablement une formation, c'est une visite guidée qui nous permet de nous imprégner. Donc ces réalités que nous vivons ici, nous allons les partager avec nos citoyens, enfin nos citoyens, nos frères. Moi, en tant qu'enseignant, j'en parlerai bien sûr à mes étudiants. Je leur montrerai, par exemple, comment est-ce qu'une radio comme la Voix de l'Amérique arrive par le contenu des émissions proposées à fédérer toutes les énergies autour du développement, de la réconciliation et du dialogue social.
Chidam Tongal est une jeune femme venue de Turquie. Elle nous parle de ce qu'elle compte faire à l'issue de cette immersion dans le monde des réseaux sociaux aux États-Unis.
Le bénéfice est dans un premier niveau d'apprendre toutes les différentes coutumes des autres pays du monde. Donc nous représentons en fait 24 différents pays. Donc c'est vraiment intéressant d'apprendre des différentes sortes de coutumes et des différentes sortes des informations et toutes les politiques qui sont maintenant. Et dans un deuxième niveau, c'est vraiment intéressant pour moi parce que c'est le premier c'est mon première fois que je suis aux États-Unis, et donc de voir des différentes sortes d'institutions et juste parler, discuter dans les différentes sortes de différents new media.
Alors, comment vous comptez appliquer les connaissances que vous aurez apprises dans votre pays? Comment vous comptez le faire?
En fait, je travaille dans une institution de politique et dans une université. Et donc, mon premier objectif est de faire une sorte d'analyse politique et comment on peut en fait promouvoir civil society dans des différents cadres pour justement de faire des recommandations dans le gouvernement de la Turquie.
La vie du spécialiste.
Et notre invité avec lequel nous ferons un long parcours dans cette édition de l'Amérique et vous, c'est François Bernard Hughes. Il est chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques à Paris, en France. Les réseaux sociaux visités en profondeur, anthropologie du monde virtuel, on écoute François Bernard Hughes.
Bien entendu, comme on s'en est aperçu au moment du printemps arabe, par exemple, ce sont des réseaux qui à la fois peuvent avoir une très grande influence politique, mais on voit qu'ils sont très inégalement répartis. Mais même dans des pays où il y a une faible connexion sur Internet, on sent qu'il y a un très grand appétit d'aller sur les réseaux sociaux par des cybercafés ou de rester en contact souvent avec la diaspora. Donc c'est vraiment maintenant devenu un phénomène universel, à la fois quantitativement et je dirais par son impact économique, politique et social. Les pays où il n'y a quasiment pas de connexion à Internet en souffrent d'ailleurs d'un point de vue économique. Je pense par exemple à la Corée du Nord.
Là, il s'agit d'un mur qui a été dressé par un régime politique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce monde, il est possible de faire barrière à cette atmosphère virtuelle ?
D'une certaine façon, oui. On a beaucoup vécu dans l'idée que ce que un sénateur américain avait appelé le dilemme du dictateur. Beaucoup de gens pensaient que les régimes autoritaires auraient le choix soit de laisser pénétrer Internet avec ses effets politiques, culturels, l'ouverture sur le monde, mais qu'ils en paieraient le prix politique parce que ça serait favoriser l'information, le débat et la dissidence, soit évidemment ils refuseraient Internet, mais ils en paieraient le prix en isolement culturel, diplomatique et surtout économique. Eh bien, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, ça s'est révélé relativement faux. Nous voyons des pays qui s'isolent de plus en plus. L'exemple évidemment le plus frappant, c'est la Chine. Hein. La Chine a construit ce qu'on a appelé la Great Firewall, la grande barrière de feu, c'est-à-dire le firewall, ce sont les protections des systèmes informatiques. Alors la Chine a réussi à s'isoler assez largement du monde, en tout cas à s'isoler des influences étrangères, mais elle l'a fait parce qu'elle agit très intelligemment et en amont, c'est-à-dire qu'elle s'est dotée de technologies nationales. Au fond, que la Chine n'était pas dépendante de Google ou de Facebook. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà des équivalents locaux de Facebook et de Google, qui avaient leurs fournisseurs d'accès, etc. Tant et si bien que les influences extérieures via Internet sur la Chine sont assez minimes et que, même s'il y a évidemment une contestation intérieure et une dissidence, elle reste relativement limitée. Mais il y a d'autres exemples, et on pourrait citer le cas de l'Iran, qui a dit qu'il allait se doter d'un Internet halal, c'est-à-dire qui s'isolerait du monde extérieur pour ne garder que des contenus conformes à l'islam. C'est ce que certains auteurs ont appelé la balkanisation du web. Donc on est peut-être un peu en train de revenir de ce vieux rêve où Internet, ça serait forcément le forum démocratique universel et l'ouverture de toutes les frontières.
La Turquie a tenté récemment de couper ses populations de tueurs. Ça a eu le fait qu'on l'en sait. Est-ce qu'il y a des leçons à en tirer ?
Ce qui est très clair, c'est que M. Erdogan s'y est très mal pris. Si j'ose dire, il y a des dictateurs intelligents et des dictateurs qui le sont moins. Enfin, encore que M. Erdogan ait été élu démocratiquement. Mais dans le cas Erdogan, il a effectivement essayé d'empêcher, à travers une décision de cour de justice, donc il a respecté un peu formellement les formes, il a essayé de faire interdire Twitter qui diffusait des informations sur la corruption de son entourage et de lui-même. Alors ça a produit un effet exactement inverse, c'est ce qu'on appelle l'effet Barbara Streisand. En effet, l'actrice hollywoodienne Barbara Streisand avait il y a quelques années une propriété à Malibu qui, je ne sais plus quoi, n'était pas très écologique ou ne respectait pas très bien les règlements municipaux et des photos avaient commencé à circuler sur Internet. Elle a essayé de les faire interdire et bien entendu, ça a eu un effet exactement inverse, c'est-à-dire que des milliers d'internautes se sont passionnés pour cette toile qui en elle-même n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est exactement ce qui est arrivé à M. Erdogan, c'est-à-dire qu'on a vu immédiatement des tas de médias qui expliquaient comment contourner le blocage de Twitter, c'était très facile, il suffisait de faire un numéro de SMS par exemple, ou comment utiliser des réseaux sécurisés. Ça provoquait des dissensions au sein du pays et finalement, il a perdu. Alors, est-ce que ça veut dire que les régimes autoritaires perdent à tous les coups ? Dans ce sens-là, on pourrait également citer le système de Ben Ali, de Moubarak qui ont été incapables d'arrêter Internet, mais la règle n'est pas du tout générale et il y a des pays qui font autoritaires, qui font un usage qui contrôlent très bien Internet. Ça va, je dirais, de la Biélorussie à la Chine ou au Vietnam. Il y a un cas particulièrement intéressant d'un point de vue stratégique, c'est la Syrie de Bachar el-Assad, où non seulement le régime syrien arrive à contrer la cyberdissidence, mais il a lui-même engagé ses propres équipes de hackers, de pirates informatiques, et il mène des actions à l'extérieur. Donc, je dirais que l'idée que les régimes autoritaires perdent à tous les coups, là aussi, ça me semble une idée fausse.
Les États-Unis ont décidé de démocratiser la gouvernance d'Internet en faisant gérer les domaines par une ONG à vocation mondiale. Vous parliez tout à l'heure de balkanisation. Y a-t-il une différence entre balkanisation et démocratisation de la gouvernance d'Internet ?
Dans le cas des États-Unis, il y avait une situation de dissymétrie totale, puisque un grand nombre des institutions fondamentales d'Internet étaient installées sur son territoire et soumises à sa législation. L'ICANN en particulier, qui s'occupait des noms de domaine ou de faire que, si vous, pour dire les choses de façon simple, les codes Internet correspondent à des noms faciles à taper dans sa barre de navigation, était soumis à la législation californienne. Par ailleurs, on a bien vu dans le conflit qui ont dressé l'administration Obama contre Julian Assange au moment de l'affaire WikiLeaks, ou contre Media Upload, que les États-Unis avaient des pouvoirs incroyables dans le domaine d'Internet, faire arrêter les paiements PayPal, faire supprimer l'adresse URL d'un site à leur volonté. Est arrivée une deuxième vague qui a été l'énorme vague des révélations de Snowden, où on a découvert la façon totalement délirante dont les États-Unis interceptaient des millions de communications, de SMS, géolocalisaient les gens, utilisaient des hackers, etc. Donc, sous la double pression d'une demande internationale qui s'était déjà manifestée dans des sommets de la société d'information et du scandale Snowden qui a donné une image totalement Big Brotherienne des États-Unis, bon, ils ont voulu céder du terrain. Alors, donc, ça serait confié à une ONG. Maintenant, reste à savoir comment fonctionnera cette ONG, quelles seront les influences qui s'y exerceront. Jusqu'à présent, on avait deux attitudes, soit les uns qui disaient qu'il fallait en rester au statu quo et que finalement, le fait que beaucoup d'institutions soient gérées par des sociétés de droit privé était plutôt une bonne chose. Et puis, les partisans, on l'a bien vu au moment de la conférence de Dubaï à la fin 2012, des pays émergents, la Chine, l'Inde, etc., qui réclamaient un système onusien, un système international qui respecterait les souverainetés et où les pays interviendraient en tant que tels, donc avec des choses qui correspondraient probablement à ce qui est le droit de veto au Conseil exécutif, etc. Bon, voilà. Alors, est-ce que les États-Unis vont s'engager dans une troisième voie, confier à une ONG, qui sera représentée dans cette ONG? Au stade actuel, franchement, on ne peut regarder ça qu'avec, d'une manière, dans une totale expectative, le système vaudra très exactement la manière dont fonctionnera cette ONG et l'équilibre des pouvoirs en son sein.
Quelle est la place de l'Afrique dans tout ce déménagement vers le futur? L'Afrique peut-elle rattraper son retard par rapport aux autres nations développées?
Alors, l'Afrique, bon, faut pas nier l'évidence, un considérable retard dans le domaine des infrastructures. Cela dit, il faut pas perdre l'espoir, puisque parfois, on peut rattraper un retard technologique en sautant une étape. Je donnerais par exemple la façon dont l'Afrique était assez mal équipée en téléphone filaire, a assez vite sauté dans le téléphone cellulaire. Donc l'Afrique, elle est pour le moment très dépendante, elle est dépendante de beaucoup de points de vue. Il y a des situations qui sont même scandaleuses. Enfin, je veux dire, pour router, pour diriger les flux Internet, il y a des cas où des flux interafricains doivent passer par les États-Unis faute d'infrastructures. Donc il y a un problème d'infrastructure, mais évidemment, s'il y a des ouvertures politiques à travers les Nations Unies ou à travers un système de gouvernance, l'Afrique peut, si elle agit de façon, enfin, les pays africains, s'ils agissent de façon coordonnée, peuvent peut-être retrouver du pouvoir sur le plan politique et sur le plan du droit, s'ils ne l'ont pas sur le plan économique et technologique.
Alors, l'expression française reste encore en retard sur les espaces virtuels. Comment l'enclave française peut-elle se développer par rapport à l'anglais et aux autres langues?
Déjà, il y a un mouvement de fond qui fait que d'autres langues sont en train de rattraper le retard sur l'anglais qui s'était imposé évidemment comme la langue d'Internet, les caractères cyrilliques, les noms d'adresse dans des caractères non latins, etc., etc. Je crois surtout que le français n'est pas si nul hein, quand même. On a quand même une très forte présence sur Internet. Le français s'imposera à la fois, il peut s'imposer à travers les réseaux sociaux où on peut choisir des gens par affinité également, par communauté linguistique ou culturelle, mais il faudra également évidemment que le français s'impose par la qualité des contenus ou par la qualité de grands médias. Mais là, ça, si j'ose dire, ça vaudra ce que vaudra la place de notre culture par rapport aux autres.
Est-ce que Internet et réseaux sociaux veulent dire jeunesse forcément, ou est-ce un vieux cliché que je véhicule?
C'est en train de devenir un cliché. C'est vrai qu'on a tendance à assimiler Internet à jeunesse urbaine, développée, etc. Et à penser que les vieux ou les gens de plus d'un certain âge n'arrivent pas à s'adapter à la technologie. C'est de moins en moins vrai. D'abord parce que tout ça, Internet a 25 ans, hein, d'une certaine façon. Hein. Donc, y a déjà des générations qui sont passées. Les digital natives, ceux qui sont nés avec un ordinateur, je dirais presque à la sortie du berceau, ont un avantage. Mais par exemple, des technologies comme les tablettes digitales sont fantastiques pour les personnes plus âgées, parce qu'elle peut faire l'économie de tout un tas de codes, de combinaisons de touches, de maniements, etc., pour faire des gestes beaucoup plus instinctifs. Et on voit des générations plus âgées qui s'adaptent très, très, très bien à Facebook, à Twitter, à Skype, parce que, voilà, on a une technologie intelligente. C'est, pour moi, une technologie intelligente, c'est une technologie qui demande peu d'apprentissage, qui est transparente, qui est instinctive. Donc, les générations plus anciennes sont en train de perdre leur handicap dans ce domaine-là. Bon, évidemment, c'est une évolution assez lente. Par ailleurs, il y a même des phénomènes intéressants. Par exemple, on a tendance à penser que Facebook, c'est le truc des jeunes. Eh bien, c'est de moins en moins vrai. Ça s'installe dans les générations anciennes. Par exemple, les grands-parents adorent discuter, être en contact avec leurs petits-enfants sur Facebook quand ils sont dans une autre ville. Et par ailleurs, on voit même des jeunes générations, dans les vraiment jeunes, on les voit par exemple qui tendent à abandonner Facebook parce que Facebook, c'est un truc de vieux. Donc vous voyez que tout ça change très vite.
Alors on parle de la presse comme le quatrième pouvoir. Quel type de pouvoir représente donc Facebook, YouTube, Dailymotion et autres, les espaces virtuels, pour terminer?
Alors, c'est un pouvoir assez différent parce que dans la presse classique, des gens censés être experts, des journalistes, émettaient un message pour tout le monde. C'est pour ça que ça s'appelait des mass médias d'ailleurs. Et ce message, bon, avait un impact immédiat. Il était commenté. Il déterminait souvent l'opinion des leaders d'opinion, etc. Ça, c'est en train de changer. D'une part, parce que Internet permet, alors concurrence, les anciens médias. Vous et moi, en utilisant intelligemment Internet, je veux dire en allant naviguer sur des sites d'agences ou des sites dans d'autres pays, nous pouvons avoir beaucoup plus d'informations en 5 minutes que n'en avait le directeur du Monde il y a 20 ans. Bah, tout simplement parce que les sources sont ouvertes, faciles, tout le monde peut devenir journaliste, et comme l'avait dit un chanteur de rock, ne haïssez plus les médias, devenez les médias, donc nous pouvons tous nous bricoler notre petit média ou notre petit journal. Deuxième élément, évidemment, on voit des attitudes beaucoup plus communautaires sur les réseaux sociaux. On voit des groupes qui ont des affinités communes, qui tendent à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant, c'est-à-dire non seulement s'exprimer, dire leur avis sur la politique, l'économie, les films qu'ils aiment, mais il y a des interactions beaucoup plus complexes. On peut recommander, liker, citer, faire des liens, faire des parodies, etc. Tant et si bien qu'il y a des tas de formes d'expression hybride qui circulent comme ça. Un exemple très typique, c'est Twitter. Hein. Sur Twitter, vous pouvez faire des usages très différents. Soit vous pouvez raconter des bêtises, raconter votre journée ou si vous mangez une bonne glace, mais vous pouvez en faire un usage beaucoup plus intelligent en signalant à des gens que vous connaissez, qui ont à peu près les mêmes intérêts que vous, des liens intéressants, des sources primaires. Et donc, là, on voit une source d'information complètement concurrente des anciens médias. Donc là, il y a une nouvelle règle qui est en train de s'établir. Bah, c'est à nous à apprendre à utiliser ces instruments intelligemment, c'est-à-dire qui renforcent notre pouvoir de critique et d'information par rapport aux anciens mass-médias, et non pas pour qu'ils isolent chacun dans sa bulle ou dans ses croyances.
François Bernard Hugues, chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et stratégiques à Paris, en France. Ce sera tout pour cette édition de l'Amérique et vous, consacrée à Internet et aux réseaux sociaux. La Voix de l'Amérique, Jean-Roger Billon pour vous servir. Cette émission a été réalisée par Michel Joseph. Vous retrouverez en studio la semaine prochaine Timothée de Mangmaï pour la version interactive de l'Amérique et vous. Bonsoir.